toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, je vous invite à suivre un Histoire de Savoir un peu particulier. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous serons 8 autour de la table. J'ai 7 invités. Alors, c'est une interview qui a été réalisée fin de l'année scolaire précédente. Et donc, autour de cette table, il y a Dorota Waltzak de Launoy et Oksana Koslova. Toutes deux, enseignantes ici à l'ULB, et également 5 étudiantes ukrainiennes qui ont passé quelques mois en Belgique l'année dernière dans le cadre d'un programme d'échange Erasmus. Alors c'est un projet un peu fou, né comme c'est souvent le cas dans le monde slave, lors d'une soirée de poésie. Vous allez donc entendre Marina, Yulia, Alina, Polina et Olga qui nous parlent de leurs premières années d'université à Kiev et puis de leur vie ici à l'ULB en tant qu'étudiantes en langue et lettres et en traduction. Vous avez suivi ici des cours, alors avec d'autres étudiants Erasmus, mais aussi simplement des cours avec des étudiants inscrits régulièrement à l'ULB.
Oui, c'est ça. La majorité de notre cours passe avec d'autres étudiants Erasmus. Mais de temps en temps, oui, bien sûr, nous racontent autres étudiantes belges. Mm-hmm. Et c'est vraiment très intéressant de passer cette expérience avec eux. De communiquer avec eux, de communiquer avec des gens des origines absolument différentes. C'est ça.
D'accord. Et aussi, c'est pas toujours les cours pour les étudiants Erasmus, c'est aussi, par exemple, moi et mon amie Alina, on a les cours d'espagnol ici, avec les étudiants du deuxième cours. Et en général, nous sommes de même âge, et c'est parce qu'en Ukraine, l'école finit, il y a juste 11 ans d'école en Ukraine, ici c'est 12 ans. Donc, en fait, quand on finit notre bachelier, les étudiants de l'ULB aussi finissent son bachelier.
Ah oui, d'accord. Donc, vous commencez l'université à 17 ans, en fait.
Oui.
En Ukraine. Ok, d'accord. Alors, au départ, ça veut dire que vous avez déjà étudié 2 ans en Ukraine avant d'arriver ici. Ok. Vous faisiez quoi comme études? On va commencer avec toi, Marina.
D'accord. Nous apprenons en général la même chose, donc c'est la linguistique. Je sais pas.
Et dans quelle langue te spécialisais-tu?
Tout le monde dans notre petit groupe nous spécialise dans la langue française. C'est notre langue principale dans notre université d'origine. Nous apprenons l'anglais et beaucoup entre nous, on apprend l'espagnol. Donc, c'est ça.
D'accord. Donc, français, espagnol, anglais. Pareil pour toi, Julia?
J'apprends aussi italien parce que la philologie française, c'est aussi une des différences entre traduction et philologie dans notre spécialisation, c'est que on peut choisir d'étudier aussi plus de langues romanes. Et c'était on a choisi avant notre troisième cours si on veut étudier plus de la langue française ou choisir aussi les cours d'italien. Donc j'ai choisi les cours d'italien et donc j'ai aussi prends ici parce que je dois donc les cours ici on doit choisir les pour pour lui d'être un peu plus pareil des cours à notre université en Ukraine.
Okay. Alina?
Moi, j'apprends pas l'italien. Heureusement, donc pour moi, c'est aussi anglais, français, anglais et espagnol.
Okay. D'accord. Oui. Paulina?
Pour moi, c'est juste anglais et français et je suis heureuse de ça parce que c'est vraiment pour moi les deux langues, c'est déjà compliqué d'apprendre, de concentrer et parfois c'est compliqué de trouver le mot en ukrainien ou en français parce que je sais ce mot en anglais mais je ne peux pas le trouver en ukrainien. C'est bizarre.
C'est du cerveau de traducteur, ça. Olga?
Oui, je fais le même, mais je veux dire merci beaucoup pour l'opportunité d'apprendre la langue avec les professeurs qui sont native speakers. Par exemple, on apprend la langue espagnole avec les professeurs qui viennent d'Espagne, anglais avec qui viennent d'Angleterre et français, je pense, évidemment. Donc, c'est la phrase belgique. Donc, je trouve cette opportunité vraiment chouette.
C'est pas quelque chose qui était possible, enfin vos professeurs en Ukraine n'étaient pas des native speakers?
On a eu les professeurs native speakers, mais jusqu'avant la guerre, parce que après, beaucoup de professeurs ont décidé de quitter notre pays, et c'est vraiment de raison de safety, donc c'est... j'espère qu'un jour... Beaucoup de professeurs, beaucoup de native speakers reviendra chez nous. Et oui, on va apprendre les langues avec les native speakers.
Oui, mais, notre professeur en Ukraine, il fait tout juste pour être comme native speakers. Parce que notre professeur de français... Il fait son travail vraiment bien, donc, mais c'est pas le même.
Oui, tout à fait. Alors, si je calcule bien, donc vous avez passé 2 années d'université à Kiev avant de venir ici. Ça veut dire que vous avez eu assez peu de temps pour profiter d'une vie universitaire classique avant que n'éclate la guerre Kiev a été au centre du même si géographiquement Kiev est un peu extérieur au conflit, mais malgré tout s'est retrouvé au centre dès le départ. Je calcule bien.
Alors nous sommes donc on a fini notre école jusqu'à quand la guerre a commencé, donc c'était vraiment une période stressante parce que on devait passer nos examens pour aller à l'université. Après aussi on avait une année juste dans le comme pendant le Covid, on était juste chez nous, on a étudié à distance. Donc, c'est vraiment que la vie universitaire a un peu passé sans nous parce qu'on n'avait pas la possibilité de nous voir, de faire quelque chose, parce que c'est toujours le couvre-feu et toujours le danger. Et ici, je pense que c'était une belle possibilité de faire tout ça parce que la vie universitaire est ici vraiment vivante. Et c'est vraiment chouette.
Je peux dire que l'ambiance ici, c'est vraiment super. Avant de me partir, ma mère m'a dit que tu vas profiter d'une vraie vie universitaire sans la guerre. Et c'est vrai, c'était une expérience vraiment inoubliable. Et comme ça doit être, sans la guerre, sans tout ça. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir cette expérience.
Mais en Ukraine, on essaye de profiter de petits moments. Donc, on organise les fêtes pour les étudiants. Donc, on a aussi pas les cercles comme ici, mais on a les petites organisations étudiantes qui organisent beaucoup de choses intéressantes. Ça peut être la lecture de poésie, ça peut être aussi les discothèques un peu. Oui, ça, c'est une vie étudiante. Donc, oui, donc on essaye. De garder ses émotions, de donner les émotions à nos étudiantes aussi. Donc.
Et aussi, on peut aussi faire des choses artisanales. Par exemple, on a peinté nos vêtements une fois. Et aussi, à propos des fêtes, les étudiants toujours donnent une petite quantité d'argent pour faire par exemple prendre le bâtiment pour la fête, et le reste des argent on passe pour l'armée d'Ukraine, donc c'est aussi un peu de charité.
Tout à fait.
Mais aussi, je veux dire, pour moi, ULB est très vivant et animé. Il y a beaucoup de gens chacun fait quelque chose. Donc, profiter du soleil, manger des pizzas, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est la partie de la vie. Donc, c'est... En Ukraine, on essaie de faire comme ça, mais c'est la guerre et ce n'est pas très, très souvent comme ici, par exemple.
Oui, j'aimerais peut-être ajouter une chose amusante. Oksana va après compléter que grâce aux étudiants d'Ukraine, grâce aux étudiants de Kiev, nous avons organisé une nouvelle fête en septembre d'accueil. Donc, on appelait la fête de septembre. Donc, dorénavant, ce serait une coutume de pouvoir échanger les propos, de faire les connaissances tout simplement. Avec un verre d'amitié soutenu par notre faculté et aussi par, je dois le dire, SME, l'équipe d'Erasmus qui a préparé tous les lourds documents et les dossiers pour que les étudiants puissent profiter aussi des subsides pour vivre ici. Donc c'était dans le cadre des projets. Donc je remercie chaleureusement Gaël van den Broeke, Laetitia Oliveira Westerman, tout comme l'équipe de la faculté, les deux départements de langue et lettres, de traduction et interprétation. Et ensuite, il y avait la mémorable soirée slave. Je laisse Oksana en parler, parce que c'était quelque chose.
Alors Oksana, une soirée slave?
Deux soirées slaves. c'était la deuxième émission, mais avec chaque fois l'Ukrainien présent, même si l'année passée, quand nous avons organisé notre soirée slave commune de toutes les langues slaves représentées à l'ELB, nous n'avions pas encore des étudiants d'Erasmus avec nous. Et cette fois-ci, en revanche, nous avons pu profiter pleinement de cette soirée slave aussi pour faire découvrir nos spécialités ukrainiennes aux autres étudiants, de les faire payer en fait, parce que nous avons fait aussi une collecte pour l'université Taras Shevchenko de Kiev qui était quelques jours avant notre soirée bombardée, donc qui les bâtiments duquel ont été endommagés, notamment une des résidences des étudiants où Alina devait se trouver s'il restait en Ukraine. Donc nous avons tourné comme d'habitude tous les Ukrainiens actuellement l'occasion d'une fête à l'occasion d'une collecte. C'est quelque chose qui marque nous tous. Et moi aussi, j'ai un souvenir que je garde en tête parce que le premier apprentissage de nos étudiants, de ces étudiants ukrainiens qui sont venus à Bruxelles, était en fait l'apprentissage de pouvoir écouter un bruit de travaux dans la rue sans se poser la question si c'était un drone, s'il fallait descendre, se cacher. Donc c'était la première chose qu'elles m'ont dit toutes et tous, parce que la slave était là effectivement, que voilà, on réapprend à dormir et de ne pas sauter au moindre bruit. Et ça c'est quelque chose quand même qui marque.
Ça représente quoi pour vous, Oksana, d'avoir ici du coup des étudiantes ukrainiennes qui peuvent assister à vos cours et qui sont c'est un petit peu de la maison qui est là, quoi.
Effectivement, parce que moi je suis d'origine ukrainienne, mais ma langue maternelle est le russe, l'ukrainien est ma deuxième langue, et donc moi aussi, je ne sais pas les filles si vous vous souvenez, mais au début j'ai dit il faut que je vous parle uniquement l'ukrainien parce que je veux parler l'ukrainien, je n'ai pas beaucoup d'occasions pour cela. Et pour moi, c'est pas seulement une occasion de pratiquer la langue ukrainienne, mais aussi de revenir vers mes propres sources, de me poser des questions. Pourquoi ma famille, dans ma famille, mes parents qui étaient tous les deux ukrainophones ont choisi de parler le russe? Comment ça se passe que ça affecte en fait toutes les générations entières? Comment ça se passe que la langue, tout d'un coup, maternelle devient pas la langue maternelle de ma maman? Donc, il y a beaucoup de questions que cela provoque et je suis en recherche des réponses et c'est quelque chose qui m'anime en ce moment et je suis terriblement reconnaissante à nos étudiantes aussi parce que elles nous enseignent autant que nous les enseignons. Donc merci les filles.
Alors, vous étiez donc toutes les cinq à l'université à Kiev. Est-ce que vous êtes toutes les cinq originaires de Kiev ou est-ce que, voilà, vous étiez là-bas pour l'université? Dis-moi, Olga.
Oui, je suis née à Kherson, c'est la ville du sud d'Ukraine. Oui, j'ai déménagé à Kiev, je pense, il y a 4 ou 5 ans, c'était après la guerre, parce que pour moi, Kiev, c'est la ville de mon cœur, donc juste j'adore, et c'était très difficile pour moi de déménager à Bruxelles, mais je sais, je vais revenir, donc, mais oui, maintenant ma ville maternelle, donc Kherson, c'est très... dangereuse, oui, c'était très dangereux maintenant, et un jour, j'espère que tout va bien, mais maintenant, ce n'est pas l'endroit que je veux revenir, malheureusement. Mais, franchement, la région, c'est magnifique, nous avons beaucoup d'endroits formidables, vous pouvez chercher, peut-être pas Kherson, mais région, oui, mais maintenant, c'est occupé. Mais c'est pas pour toujours, je pense.
Paulina, tu es originaire d'où?
De Poltava. Oui, c'est une ville près de Kharkiv, près de Sumy, près de Kiev aussi. Donc, c'est une ville dans le central Ukraine, on peut dire ça. Mais après mon première visite à Kiev, j'ai dit à ma mère que je vais vivre et étudier seulement à Kiev. Même si j'ai Kharkiv, qui est à l'époque, il était une ville très pour étudiants, donc il y a beaucoup d'universités bien très très comment dire ça prestigieux donc mais j'ai dit après première visite non je veux habiter seulement à Kiev, c'est tout. Donc
OK. Alina?
Moi, je viens d'une ville que personne connaît, ça s'appelait Polonais. C'est une petite ville. Je pense que c'est au milieu, c'est entre Lviv et Kiev. Donc c'est centre-ouest. C'est très vieux. Je pense, si je me trompe pas, mon ville est à 1025 ans, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est très beau, mais il y a rien là-bas, en fait. Mais j'adore Kiev. C'est aussi, c'est une ville que je compare tout à Kiev. Donc, on va, on faire des voyages et n'importe où on va, je suis, c'est comme Kiev. C'est pas comme Kiev. Donc, c'est tout.
Okay. Yulia.
Oui, je viens de Kiev, et donc pas très intéressant, c'est juste que j'ai choisi une université parce que c'est une des meilleures universités en Ukraine et j'avais le but d'aller là-bas, donc c'est tout. Mais je n'ai pas de route en Kiev parce que mes parents sont pas, ils ne viennent pas de Kiev. En général, ils ont de ma mère est de le région du nord d'Ukraine et mon père est de région de Tcherkassy. C'est plus près de Poltava, mais oui. Je tenais et je vis dans Kiev.
Okay. Marina?
Oh oui, moi je viens de Poltava aussi. De Poltava, ville avec le grand héritage culturel. Et pour moi, je suis d'accord avec les filles parce que pour moi, Kiev est ma ville favorite. Pour moi, c'est la meilleure ville dans le monde. Je n'ai pas changé mon avis malgré tous les problèmes, malgré tous les challenges. Donc, c'est ça.
Alors, ça se passe comment à l'université en Ukraine? Est-ce que il faut passer un examen d'entrée pour pouvoir y aller? Est-ce qu'il faut rentrer des dossiers ou est-ce que c'est comme ici et il faut juste s'inscrire? Je vois Paulina qui fait non.
Non, on a les examens après, quand on finit l'école, on a les examens généraux. Normalement, tu peux choisir quel cours tu veux, pas quel cours, mais quel domaine tu veux aller pour l'université. Donc, il y a les examens différents. Par exemple, pour les personnes qui veulent être...
Les docteurs,
oui, et ils doivent passer l'examen en biologie. Mm-hmm. Pour les philologies, tu dois passer anglais, mais on a ukrainien, la langue ukrainienne et l'histoire ukrainienne, je pense que c'est obligatoire pour tout le monde. Donc oui, mais notre année, c'est à cause de la guerre, c'était un peu confusant. On a beaucoup de difficultés de comment ce système va marcher parce que avant c'était pas comme ça. Et donc on a eu un cours pour nous, c'était une lettre de motivation pourquoi on veut étudier dans l'université.
Donc, à cause de la guerre, c'était beaucoup de changements parce que tout le monde se préparait pour un type d'examen et enfin, c'était un type très différent. Je peux pas dire que c'était plus facile parce que, donc, on n'a pas pensé que ça va être comme ça. C'était, donc, on le passait dans les ordinateurs et pas sur les feuilles comme ça devrait être. Et aussi, on n'a pas beaucoup de temps avant l'université parce que, par exemple, mon examen était le 4 d'août. Et normalement, nos examens, on devait les passer en juin. Donc c'était aussi stressant parce que tu attendais beaucoup de temps pour le faire, le passer. Et c'est vraiment la guerre. Tu finis ta école. C'était tellement stressant que j'avais besoin de passer beaucoup de temps juste pour me reposer parce que oui.
Donc ça veut dire que la guerre a éclaté quand vous étiez encore en dernière année de secondaire, c'est ça? Oui. Donc vous avez, c'était en février, vous avez terminé votre secondaire chacune là où vous étiez. Ok, je vois Oksana qui lève la main.
Oui, je me permets tout simplement parce que il est important de se rappeler que la guerre a commencé pour les Ukrainiens en 2014. Donc, le 2022, ça marque une invasion russe sur le territoire de toute l'Ukraine. Mais voilà, c'est juste pour nos auditeurs, c'est important de garder ça à l'esprit. Donc, c'est un pays qui est marqué par la guerre pendant plus d'une dizaine d'années déjà.
Mais alors du coup, ma question évidemment est très naïve et idiote, mais ce serait bête de ne pas la poser. Ça se passe comment vivre au quotidien dans une ville qui est en guerre, enfin qui est attaquée, qui est prise comme cible par un agresseur? Comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Vous êtes toutes les cinq super souriantes, vous parlez du bonheur que c'est d'être ici, mais vous parlez de Kiev avec un tel enthousiasme, on se dit mais en fait vous voulez y retourner tout de suite, et donc ça peut être difficile à comprendre pour des auditeurs de se dire mais vous avez envie de retourner dans un territoire où il y a une guerre.
Malheureusement, les gens, c'était le type de on s'est habitué à tout ce qu'on a dans la vie, même les bons, même les mauvais aspects, on s'est habitué. Par exemple, tout s'habitue comment de vivre en train de la guerre. Pour moi, c'était comme un jour, je travaillais en Ukraine et donc un jour, je dois me réveiller à 5h50. Et donc, oui, c'est très tôt. Mais, vous savez, je suis en train d'endormir, je pensais, est-ce que aujourd'hui c'est lundi ou non? Parce que lundi normalement il y a des explosions, il y a des missiles, et donc normalement si c'est lundi, j'ai juste je mets mon alarme à 5h40 pour réveiller un peu plus tôt, pour se préparer et puis après aller au travail parce que le transport en commun ça marche pas pendant le air alarm et donc oui je sais pas comment dire ça en français et normalement tu juste une fois c'était comme quand je suis allée au travail, il y a une explosion près de moi mais j'étais oh j'ai le travail quoi, je ne peux pas ne pas aller donc
okay. Bon comment se vivre pendant la guerre? Je suis d'accord avec Polina. Pour survivre, tu dois t'habituer juste parce que premièrement c'était un grand choc. Je ne pouvais pas comprendre comment c'est possible pendant le 21e siècle. Comment c'est possible de voir la guerre? Mais on doit s'habituer. Mais c'est toujours un grand choc. Par exemple, moi, mon dortoir qui était bombé, il n'avait pas de fenêtre pendant 2 mois ou quelque chose comme ça. Heureusement, personne, il n'avait pas de blessés, donc c'est super. Mais c'est au centre-ville, c'est près de l'hôpital Ahmadet qui était bombé cet été. Et je me souviens quand je suis réveillée à cause des explosions et j'ai lu des nouvelles que Ahmadet, le plus grand et le plus important hôpital pour les enfants, c'est un hôpital des enfants, était bombé et le bâtiment le plus nouvel, je pense, était détruit. Et je me souviens que toute la ville, toute Kyiv, a commencé à aller là-bas pour aider. Il y avait tout le monde, tout le Kyiv était là pour donner l'eau, pour aider les services, pour donc les gens font tous pour aider, pour oui, pour survivre.
Quand la guerre a commencé, j'ai pas aussi cru que c'est réel. Donc mon enseignant à l'école nous a écrit que jusqu'à lundi de semaine prochaine, nous avons pas des études. Mais comme ah ok, donc je dois revenir à l'école à lundi, ça va, tout va passer, tout va finir. Malheureusement, non. Mais oui, je suis d'accord avec les filles. Si tu auras les espoirs cassés, si tu vas penser que ça va être pas bien au futur, tu vas juste vraiment casser mentalement. Mais aussi, donc quand c'était pas la guerre, je pensais que quand on a étudié l'histoire, moi, comment les gens vivaient pendant la guerre, quand c'était Seconde Guerre mondiale, je pensais que la vie n'existait pas. Mais maintenant, je comprends qu'on ne peut pas ne vivre. Donc, on ne peut pas juste arrêter de vivre parce que sans des gens, le pays n'existera pas. Et donc, nous sommes c'est un petit moteur qui, comment être pour le pays et aussi pour les armes marcher normalement parce que donc oui c'est la guerre mais quand même je dois étudier, je dois chercher le travail et tous les gens doivent faire quelque chose pour vivre et pour soutenir notre pays et c'est toujours donc pour nous c'est vraiment la chose de la vie quotidienne déjà quand tu par exemple reviens c'est aussi parce qu'on a le couvre-feu et avant 12h avant minuit, on doit revenir chez nous et on ne peut pas sortir. Et quand on a donc juste arrivé, nous sommes allés pour se promener et on est revenu. Donc c'était 3 journées que on est revenu avant 12h et nous sommes comme mais attends, il n'y a pas de couvre-feu ici. Pourquoi nous revenons tellement tôt? Et c'est aussi l'impact. Donc c'est juste la vie quotidienne.
Et on a déjà mentionné la situation avec le Ahmadit. Et aussi, je veux dire, c'est la phrase dans la tête. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, parce que je me souviens, j'ai l'appartement de la 15e étage et avec la grande fenêtre, donc je peux voir tout. Et 7 jours après, c'est fini. Et c'était, je pense, soir ou un peu plus tard. Et j'étais dans mon appartement et c'était juste le bâtiment qui était divisé par deux parties parce qu'il était bombé. Et c'est juste, ce n'est pas moi aujourd'hui. Donc, et quoi d'autre? Donc, je pense que c'est le pire quand tu comprends. Oui, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais je ne sais pas que je vais faire, par exemple, demain ou semaine prochaine. Donc, oui.
Marina?
Oui, je suis d'accord avec les filles. Au cours des années, c'est juste comme une habitude. Donc, malheureusement, c'est l'habitude, c'est notre vie quotidienne. Mais pour moi, au début... de l'invasion à grande échelle, ma vie et la vie de ma famille a changé
complètement.
Oui, c'est ça. Et c'est dans tous les aspects. C'est la mentalité, peut-être. J'ai changé la langue. Par exemple, j'ai parlé beaucoup le russe avant, mais j'ai commencé à parler l'Ukrainien plus. Et bon, et comme ma famille. Et pour moi, je suis d'accord que de temps en temps, c'est l'habitude, mais de temps en temps, les événements arrivent qui te frappent très fortement, vraiment fortement. Par exemple, comme Ahmadid, j'ai travaillé cette journée et j'ai travaillé avec en ligne. Et j'ai communiqué avec une autre personne. Et bon, cette frappe. Et bon, c'est quoi ça? Et quand j'ai vu l'actualité, ce qui est arrivé, c'était vraiment effrayant. Et bon, tout le monde se... s'actualise de faire quelque chose pour aider et pour, je sais pas, pour passer de cet événement.
Et aussi, il y a beaucoup de gens posent la question, pourquoi tu les dors, pourquoi tu dors, pourquoi tu es dans l'appartement? Et juste parce que, par exemple, la situation avec Ahmadid, avant, c'était toute la nuit, il y a beaucoup de shahed, c'est le drone ou quelque chose comme ça, et nous... j'étais vraiment juste fatiguée. Je n'écoutais pas l'alarme et... Je me suis réveillée parce que c'était la frappe, juste bam! Et j'ai compris, ok. Donc, quelque chose arrivait parce que beaucoup de gens juste fatigués. Ce n'est pas possible chaque nuit aller dans le, je sais pas, métro ou l'endroit d'autre. Nous aussi, nous voulons dormir de temps en temps. Oui. Donc, c'est la question. Pourquoi? Donc, parce que ce n'est pas possible, malheureusement. Et, oui.
Et aussi, je voudrais ajouter que pour nous, quelque chose qui est très particulier, mais peut-être pas pour vous les filles, mais c'est un peu difficile de faire les plans pour ton futur, pour ton avenir, parce que tu ne sais pas si tu as l'avenir ou non. Et juste, oui, ça, ici, donc j'ai commencé de penser vraiment de mon futur, de mon avenir, quoi je veux faire juste dans la vie. Parce que avant cette mobilité, j'étais, ok, je dois vivre, je dois faire quelque chose, je dois supporter armes, je dois supporter Ukraine. Mais en fait, j'ai pas eu les plans pour ma vie.
Quand je vous entends, j'ai l'impression que les mois que vous avez passés ici à Bruxelles, ça vous a un peu permis de recharger vos batteries aussi et de retourner chez vous avec du coup une vision différente. Tu parlais, Paulina, d'un futur. Voilà, vous avez pu construire quelque chose, en tout cas dans vos têtes et dans vos cœurs. C'est l'impression que j'ai.
Oui, parce que je suis d'accord avec Olga qu'il y a la grande fatigue. Et bon, au début, je dormais extrêmement beaucoup, je sais pas, je dormais pendant 10 heures ou quelque chose comme ça. Mais bon, même ici, de temps en temps, je sais pas, peut-être les filles ont le même sentiment, parce que de temps en temps, j'ai des cauchemars qu'il y a le bombardement, quand je suis ici, à Bruxelles, qu'il y a le bombardement. Mais bon, je me sens, j'entends les missiles approchent, mais mon corps est aussi faible que je ne peux pas me bouger. Je ne peux pas aller chercher la place sécurisée. Et je sais pas, c'est un peu même effrayant.
Mais aussi, par exemple, j'étais en Ukraine pendant 2 semaines. Et quand j'habitais là, pour moi, c'était... Malheureusement, mais c'était d'habitude. Donc, je sais, donc, OK, c'est chahiet, c'est pas grave, blablabla. Mais... J'étais après j'ai revenu en Ukraine pour 2 semaines et c'était juste chahiet quelque part à Brovary, donc c'est un peu plus loin de Kiev, mais je ne peux pas dormir, donc je pense que c'est dans 5 minutes c'est ça va frapper dans mon appartement. Et c'était l'attaque balistique, si je peux dire comme ça, dans mon dernier jour en Ukraine, et j'ai réalisé que ce n'est pas d'habitude. Non. J'ai perdu d'habitude et je ne peux plus faire comme je fais avant. Par exemple, je ne peux pas juste dormir ou être calme ou quelque chose comme ça. Chaque fois, chaque alarme, je pense quelque chose va arriver. Donc, et je sais pas si c'est normal vraiment, parce que avant, j'ai réalisé donc c'est ma vie et je n'ai pas d'autre choix. Mais maintenant, j'ai peur. Donc.
Oui, ok. En même temps, ça te montre que c'est une habitude qu'on peut perdre aussi. Donc, moi, je trouve ça quand même assez positif. Ça veut dire que le jour où le conflit sera terminé, vous pourrez aussi reperdre cette habitude.
Mais pour nous, je pense que les filles sont d'accord. Moi, j'ai peur tout le temps parce que ma famille est là. Et donc, tu te réveilles chaque matin avec l'idée de... regarder dans ton téléphone, de regarder les actualités pour savoir s'il y a passé quelque chose pendant la nuit. Et c'est aussi, c'est quelque chose, oui, je suis d'accord avec Marina parce que j'ai eu aussi les cauchemars des bombardements et c'était une vraiment expérience très très touchante, très émouvante pour moi parce que après j'ai téléphoné à ma mère et j'ai un peur pour elle et c'est quelque chose qui on ne peut pas laisser avant nous. C'est quelque chose qui est toujours avec toi, mais tu t'habitues de vivre dans un autre rythme de vie et c'est tout.
Oui, et pour parler de famille et avenir, c'est dur parce que, par exemple, je pense que chacun a eu en Ukraine une expérience près de mort. Je pense que, par exemple, j'ai parlé de mon ville, il n'y a presque rien, mais le travail de mon père, c'est la seule chose qui est dangereux dans mon ville. C'est l'un des infrastructures critiques. Et je pense que dans 2023, il était presque tué par une explosion. C'était le quatrième infrastructure de même genre. Donc c'est pour ça que après l'alarme, il a quitté son travail. Mais si il n'a pas quitté son travail, il était mort. Donc, et tu toujours penses de ça? Donc, il y a toujours la possibilité juste de ne pas survivre tout ça. Et c'est dur.
Je suis totalement d'accord avec Paulina parce que donc je sais pas, c'est juste une petite remarque parce que parfois les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le drone, cette shahed ou la balistique. Donc shahed, c'est un drone qui c'est un drone de 3 mètres qui prendre la bombe de 50 kilos, et la balistique, c'est une raquette missile qui de taille de bâtiment qui a 7 étages. Donc c'est vraiment grand et c'est vraiment dangereux. Mais je suis d'accord avec Paulina parce que parfois, donc on a l'application qui donne nous l'information quand c'est l'attaque des drones ou des missiles, et parfois je me réveille dans le matin, je regarde l'application et c'est comme beaucoup des informations que c'était beaucoup des attaques. J'écris à mes parents et j'espère qu'ils vont me répondre. Donc toujours ils m'écrivent les premières, mais sinon je deviens très stressée. J'espère qu'ils ont oublié. Oui, parce que les Russes, ils essayent de toujours bombarder à la nuit, donc on n'a pas beaucoup on ne peut pas dormir beaucoup, et donc la morale tombe aussi toujours à cause de ça, parce que je me souviens quand c'était le dernier printemps, quand j'ai écrit mon ma thèse, et c'était shelter.
Un abri,
et donc j'étais, c'est comme 3 heures du matin, et moi, comme alors, je suis toujours, je ne dors pas, donc je vais écrire ma thèse, et tu attends les explosions, parce que c'était la période active quand les Russes étaient, donc ils ont détruit beaucoup des infrastructures, et oui, c'était fatigant, parce que c'est 6 heures du matin, et je juste reviens d'abri, et mes parents ils vont à travail, et moi je reste pour dormir parce que j'ai les cours pour 2h30, et je suis tellement fatiguée. Je pense que la majorité des gens n'ont pas cette possibilité de dormir après ça, et c'est vraiment que ils vont faire.
Olga?
On a déjà parlé d'habitude et de la famille, donc je vais ajouter, par exemple, pour moi, j'ai peur. Pour moi, c'est pas normal quand c'était l'explosion avant l'alarme ou quelque chose comme ça. Mais mes parents habitent à Kherson, c'est donc la ville est très bombée, comme j'ai déjà dit. Et pour mes parents, c'est ok. Donc, par exemple, mon père, il peut dormir juste tous les jours, chaque fois. Je sais pas, pour, toujours. Et pour elle, c'est normal. Mais j'ai visité mes parents il y a 2 ans, peut-être un peu moins, et j'ai quitté ma vie plus tôt parce que pour moi, c'était juste pas possible. Ce n'est pas chaque jour, c'est chaque minute. C'est bam, boum. Je sais pas, et pour moi, c'est super fort. Donc, juste accepter la vie comme ça, comme d'habitude. Donc.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Dorota, Oksana, Alina, Paulina, Olga, Marina et Yulia de m'avoir accordé cette interview. Un moment vraiment très, très émouvant et très fort. Voilà, mais écoutez, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi prochain pour un autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. Thank you.
Wa ba 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 ba